100% route. Roue libre.
Florian Marlière.
Salut à tous, bienvenue dans 100% route, la radio digitale RMC. Pendant les 3 semaines du Tour de France, maintenant c'est vous qui avez la parole dans Roue Libre, la libre antenne. Appelez-nous au 3216, touche 9, pour nous donner votre avis sur cette étape de dingue remportée par Mathieu Van Der Poel. On est ensemble jusqu'à 19h pour débriefer la 9e étape avec Tanguy Turgis, directeur sportif de la Groupama FDJ United, qui s'est régalé aujourd'hui, il faut le dire.
Je me suis régalé, pas toujours compréhensible, mais c'était une belle course à regarder.
Ouais, c'est vrai qu'il y a des vraies questions tactiques qu'on va analyser, bien sûr, en compagnie de Johan Breda, où il y a des petites décisions, c'est des véritables casse-têtes, Johan.
Salut à tous. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes sur lesquelles on se pose énormément de questions. On va les citer, on va les brûler, pour certaines, mais c'est vrai que là, c'était une magnifique étape, mais alors, tellement d'interrogations et tellement d'incompréhension sur ce qui s'est passé.
Nous avons des questions. Ludovic Duchesne a des réponses. Il est avec nous, évidemment.
J'aimerais bien avoir toutes les réponses. Mais non, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on dit aussi depuis le début. On critique beaucoup les UAE. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'équipes qui courent à l'envers. Donc c'est un peu plus facile pour l'UAE.
On va analyser tout ça avec vous, bien sûr, au 32-16, touche 9. Mais avant ça, on va revivre ensemble l'étape dans l'Intégral Tour.
Précédemment dans l'Intégral Tour sur RMC.
Ouais, ça y est, Mats Pedersen qui arrive juste devant moi et qui va aller prendre les 30 points, 25 points pour Binyam Girmay juste derrière, et Jasper Philipsen qui termine 3e je crois, et donc qui va aller prendre, je ne sais plus, c'est 30, 25 et 19 points il me semble pour Jasper Philipsen.
2,8 km encore d'ascension pour les hommes de tête, le Sucomet juste à côté de ce site de la Fournaise.
Bah, est-ce que Pogacar va et Del Toro vont en laisser aux autres, ou vont-ils encore une fois avoir un gros appétit tout à l'heure et empêcher les baroudeurs et les moelleux de s'imposer tout à l'heure à Ussel? Rien n'est encore décidé dans cette étape puisque le groupe maillot jaune Pierre-Yves n'est qu'à 1 minute 15 alors que le groupe de tête passe au col. Enfin, c'est le col, oui, c'est le Sucomet.
Le Sucomet.
C'est pas un col, c'est pas le nom d'un col, c'est le Sucomet.
Il y a une étape à pas rater, c'est aujourd'hui.
RMC, la flamme rouge.
Ça va se jouer à rien parce que les quatre commencent évidemment à se regarder. Le mur final est devant eux, 900 mètres encore à parcourir. Mathieu Van Der Poel en première place, Tom Pidcock qui est juste derrière, Mathieu Van Der Poel qui a fait signe du coude, vas-y prends le relais. Il ne prendra pas le Britannique. Johannessen est en 3e position et Alex Baudin en 4e, derrière ils sont à 15 secondes seulement, ils vont sûrement fondre sur ce groupe, il va pas falloir se regarder trop, mais ça devrait le faire. 600 mètres à parcourir et Mathieu Van Der Poel, Jérôme, qui est le premier pour l'instant et qui regarde derrière.
C'est pas la meilleure place et surtout personne ne veut le relayer. Attention à ce que ça ne revienne pas de derrière. Pour l'instant, le mieux placé dans les coureurs rapides, c'est Tom Pidcock. Bien sûr, il a pris la roue de Mathieu Van Der Poel. On va voir si ça va être suffisant.
Attention à ce que Mats Pedersen ne déboule pas derrière.
Ils
sont pas loin. Ils sont pas loin derrière les fauves. Et pour l'instant, ça accélère pas. Mathieu Van Der Poel, il garde encore et Mats Pedersen
qui accélère.
Il a démarré. Mats Pedersen, il a commencé son sprint. Si ça bouge pas, si Mathieu Van Der Poel ne décolle pas, il reste 300 mètres, ça va revenir de derrière avec Mats Pedersen. Pidcock ne bouge toujours pas, Johannessen non plus, ils sont gelés. Non, ça y est,
ça accélère.
Avec Mathieu Van Der Poel qui place son accélération, Johannessen en deuxième, Pidcock en troisième, Baudin en quatrième qui ne pourra pas s'imposer, il est le plus costaud, Mathieu Van Der Poel, il est champion du monde de toutes les catégories. Van Der Poel vainqueur à Ussel, Mathieu Van Der Poel est champion du monde de cyclocross, il est champion du monde sur route, il est champion du monde de gravel, il est champion du monde de tout et il est champion aujourd'hui. Il s'impose à Ussel.
RMC 100% route.
Il était trop fort, Mathieu Van Der Poel, Tanguy. On avait même l'impression qu'il était en mission sur cette étape. Elle ne pouvait pas lui échapper.
On le disait ce matin, toutes les étapes de sprint seront dédiées pour Jasper Philipsen. Il sait qu'il a quelques courses qui sont pour lui, quelques étapes. Et clairement, oui, il est chirurgical. C'est très très bien, très très fort pour Mathieu Van Der Poel.
Moi j'ai été bluffé, hein, quand on voit cet écart se réduire, allez, une trentaine de secondes, Mathieu Van Der Poel qui en garde un petit peu pour mettre un pétard dans la dernière difficulté et il fait exploser le groupe de tête.
Ouais, bah de toute façon c'est l'homme le plus fort, il n'y a que des superstars, hein, qui brillent sur ce Tour de France-là, particulièrement, et il a confiance, il avait confiance en ses qualités. T'as raison, hein, l'attaque qu'il met dans le dernier raidard, elle est exceptionnelle. Alors il lâche pas tout le monde, mais quand même il reprend 25 secondes, il me semble, au peloton qui était emmené à grande vitesse par Kevin Vauclin et les Ineos. Et puis derrière, le sprint, il n'y avait rien à faire de toute façon sur ce genre d'arrivée-là. C'est pas un Pidcock qui va l'inquiéter, Mathieu Van Der Poel. Donc, magnifique victoire pour lui. On le disait, hein, pour Alpecin, c'est ultra important. Alpecin qui est vainqueur d'étape sur tous les grands tours depuis qu'il participe, depuis 2021. Il la fallait là, avec Philipsen. On sait qu'on a beaucoup d'inquiétudes, mais Van Der Poel répond toujours présent.
Ouais, il fait partie de ces rares coureurs qui, quand ils l'ont décidé, gagnent. Moi, j'en vois que trois, c'est Pogacar, Vingegaard et lui. Donc, il avait décidé de gagner aujourd'hui. Et quand il est dans cet état d'esprit...
T'es gentil avec Jonas.
Jonas, il décide, mais il gagne pas. Je veux vous rappeler les résultats de cette année. Toutes les courses dans lesquelles il s'est engagé, il a gagné. Donc après, et le Giro, c'est pas non
ça,
plus...
Je suis d'accord. Mais sur le Tour de France, il peut décider de gagner. Mais...
il gagnera pas.
Non, mais vous avez compris ce que je voulais dire.
Oui, bien sûr.
C'est la race des seigneurs.
Voilà, il fait partie des trois, pour moi, qui sont les plus forts dans tous les pelotons. Et Van Der Poel, troisième victoire d'étape. Il a gagné autant d'étapes sur le Tour que de Paris-Roubaix. Voilà, ça c'est Mathieu Van Der Poel. Et 44,6 quand même, je le dis à chaque fois. Mais voilà, ça roule de folie. Et il n'y avait que des hommes forts devant. On a pris un plaisir fou. Voilà, satisfait aussi des Français. Baudin était là, il a été magnifique. Derrière aussi, c'était bien. Il y avait Jegat, il m'en manque un dans les 10. Dans les 10 meilleurs.
Broyard.
Génial. Donc voilà, les Français se sont montrés. Il faut le dire aussi, on a vu aussi les coureurs de la Groupama qui ont attaqué. Donc quand c'est des étapes comme ça qui sont très très dures, eh bien les Français sont capables quand même d'être là. Pas pour la gagne, même si Baudin n'était pas très loin.
Mais c'est quand même dingue quand tu regardes le palmarès du Tour de France par rapport à n'importe quelle autre course. Les vainqueurs d'étapes sur cette édition. Mathieu Van Der Poel, Tim Merlier, Tadej Pogacar, Mats Pedersen, Isaac Del Toro, Olaf Koy.
Que des stars.
Tu prends le Tour d'Italie 2026, t'as des bons coureurs, hein, mais t'as Davide Ballerini, t'as Igor Arrieta, t'as Guillermo Thomas Silva. T'as l'impression que c'est pas possible d'exister si on n'en fait pas partie, Tanguy, des tout meilleurs coureurs du monde dans le Tour de France.
Il y en aura toujours un. En fait, c'est pour ça que j'arrête pas de dire que la valeur déjà d'un top 5, d'un top 10, c'est exceptionnel. C'est que là, nous, coureurs français, on en met encore 3 dans le top 10. Première course en ligne, le deuxième jour, on en met 3 dans le top 10. Mais en fait, on peut les battre, évidemment, mais à chaque fois, il y aura un os. À chaque fois, il y aura un coureur. Il faudra être exceptionnel pour gagner. On est performant, on est là. Mais il faudra ce jour de grâce et
un peu de chance, un peu de réussite, une roue pas prise peut-être, et finalement suffisamment d'écart.
Mais exactement, parce que aujourd'hui il y a les 4 coureurs qui arrivent en tête, mais même derrière, il faut battre Mats Pedersen, faut battre Filippo Ganna au sprint. Nicolas Breuillard et Jordan Gigat pour faire 8e et 9e font un super sprint. Ils battent Tadej Pogacar, ils battent Del Toro, ils battent des bons coureurs derrière.
Tu nous racontes de la petite sérénade. À mon avis, Pogacar et Del Toro, ils l'ont peut-être pas fait à fond quand même.
Il y a du monde derrière.
Il y a peut-être Michael Matthews, je ne sais pas où il termine. Mais Pogacar et Del Toro, s'ils font les 900 derniers mètres à 6% à fond. J'aime beaucoup Jordan Gegat et Nicolas Breuillard, mais à mon avis, ils sont quand même dans le rétro.
Ils font un sprint quand même où il faut battre Mats Pedersen, Matthews et Ganna. Ouais. Ils font juste derrière eux deux.
Ouais. Et même au-delà du sprint, il faut être dans ce groupe-là. C'est un groupe évidemment d'hommes forts. On a la première réaction de Mathieu Van Der Poel après son sprint. On l'écoute tout de suite.
Sprint against Pidcock, against Johannessen.
Yeah,
vous étiez face à Pidcock, Johannessen,
sure.
Comment vous avez géré?
I spent a lot of energy trying to keep the brake alive. There was a lot of pressure from.
On a utilisé beaucoup d'énergie pour garder l'échappée vivante, garder un petit peu d'avance. Il y avait du vent de face quasiment toute la journée.
We fought for it and
on s'est battu pour ça.
I'm happy to finish it off.
Et je suis très content d'avoir pu finir le travail.
There will be more episodes on this Tour de France.
Maybe it's a one day festival, but at least it was a nice one.
Enjoy.
C'était un festival aujourd'hui, j'espère qu'il y en aura.
Quand est-ce qu'on le revoit, Mathieu Van Der Poel? Sur la dernière étape ou, à mon avis, c'est peut-être ça, hein. On va se concentrer sur Jasper Philipsen maintenant. Alors, dans l'espoir du maillot vert, on va en reparler, hein, bien sûr, de ce maillot vert, parce que l'étape a probablement été importante pour pas dire décisive. Van Der Poel, quand il a cette forme-là, c'est difficile de ne pas le voir enchaîner.
De toute façon, Ludo le disait, pour moi, Mathieu Van Der Poel, c'est le seul qui est de la galaxie de... de Tadej Pogacar. Alors il est un cran, juste un tout petit cran en dessous, parce que sur les monuments, Pogacar a pris l'avantage, mais quand on regarde sur la saison, les moments les plus excitants de la saison, notamment l'année dernière, c'est les duels entre Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel. Voilà, il est de cette caste-là, Mathieu Van Der Poel, Ludo a raison, s'il a décidé de gagner, en général, il met au fond.
Il sera placé à minima. Quoi qu'il arrive, il sera placé.
Et puis, c'est un coursier incroyable parce qu'il le dit dans sa réaction. Il a tout fait, Mathieu Van Der Poel, pour relancer, pour garder en vie cette échappée. Parce que sans lui, je ne pense pas que cette échappée puisse aller au bout. Je pense que ça revient derrière. Mais sauf que quand tu roules contre Mathieu Van Der Poel, c'est comme si tu avais deux hommes en face de toi. C'est quasiment impossible de revenir. C'était l'homme le plus fort. Il est marqué en plus. C'est lui qui fait le sprint en tête. Il est imbattable dans ce moment-là. Ouais.
Et un petit mot aussi sur Johannessen, que j'ai trouvé vraiment remarquable. Parce que déjà, Lino X, on le dit de tous les jours, mais ils sont là tous les jours. Et lui, il joue le classement général. Alors, le gain est marginal. Je crois qu'il a gagné 6 secondes pour tous les efforts qu'il a pu faire aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire rien. Mais il est là, et il y a cru jusqu'au bout, et c'est le seul à tenir la roue, même s'il y a un vélo et demi, mais de Van Der Poel. Donc bravo, ça veut dire aussi qu'il est en excellente forme, et il faisait partie de ses coureurs. C'était le seul devant à jouer le classement général, mais l'état d'esprit chez eux, il est incroyable.
Ah moi, il m'a bluffé aussi, hein, parce que c'est lui aussi qui arrive à revenir sur Mathieu Van Der Poel quand c'est lui qui accélère à 25 km de l'arrivée, et il avait déjà fait un raid, alors pas solitaire, mais avec Quinn Simons pour s'isoler. La satisfaction dans le camp français, c'est notamment Alex Baudin quand même. Quand on voit les cadors qu'il y avait à l'avant, le coureur d'IF, il est avec Tom Pidcock qui a gagné évidemment des classiques, qui a déjà gagné sur le Tour de France, Mathieu Van Der Poel, Johannessen qui était sixième, c'est un énorme coureur, Alex Baudin. Il est en train de prendre une nouvelle dimension, Tanguy.
C'est un très très bon coureur, et surtout là où je le trouve surprenant, c'est que c'est sur des courses dures, d'hommes forts. C'est pas sur des courses de montagne comme quand il a pu prendre le maillot jaune sur le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes. Il est sur des courses juste d'hommes forts. Et c'est là où on se rend compte qu'il a passé un cap, et que j'ai hâte de le voir sur les deux prochaines semaines sur des profils qui l'avantageront un petit peu plus, on va dire, ou quand il va se retrouver dans des groupes d'échappés, il n'aura pas affaire à des punchers qui arrivent à basculer avec lui, mais plutôt des grimpeurs, normalement un peu plus son profil. J'ai hâte de le voir là, ça pourrait peut-être être le coureur qui nous débloque le compteur français.
Ouais, il n'a que 25 ans, hein. Donc, là aussi c'est intéressant. Donc c'est vrai, il est en pleine progression, je trouve. Et il est costaud, hein, pour être là à ce moment-là, avec tous ces coureurs-là, il faut vraiment faire partie des meilleurs au monde. Donc il est super costaud, il fait plaisir à voir, parce que lui est très très souvent à l'attaque aussi. Donc voilà, on pensait à Carapaz, mais non, c'est Baudin. Et il est top, vraiment, l'état d'esprit aussi.
On a sa réaction, juste après la course.
J'aurais regardé les trois qui étaient avec moi, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et ouais, il n'y avait pas grand-chose à faire. Si je commençais à jouer et pas passer, après, ça, on allait se faire reprendre. Je pense que dans tous les cas, j'étais battu à la fin. Là, c'est vraiment aux qualités de punch par rapport à eux, j'ai rien à faire, mais... Mais voilà, je suis quand même content de l'échapper à Yobu, parce que j'ai vraiment pas compris pourquoi. Je crois que c'est UAE qui roulait derrière, je sais vraiment pas pourquoi. Donc je suis content qu'on aille au bout.
On va en discuter de la tactique UAE. Ça va être, à mon avis, un gros chapitre de l'émission. Tanguy, je rappelle, t'es directeur sportif à la Groupama FDJ United. Alex Baudin, il pouvait pas courir différemment face à tel coureur?
Non, on peut peut-être penser à ce qu'il essaye de faire une attaque dans les derniers kilomètres, mais au vu du comportement de Mathieu Van Der Poel, il l'aurait pas laissé sortir.
Le final est quand même pas facile.
Donc c'est la meilleure chance. En fait, c'est si l'attaque, on va dire, on peut penser qu'il joue gagnant, dans un sens où il se dit bon, ça peut se regarder. Au vu de l'attitude de Mathieu Van Der Poel, je pense que les chances de gagner, finalement, elles étaient quasiment de zéro. Donc quand il y a une situation comme ça, on peut s'orienter et se dire « bon, je vais essayer d'accrocher le podium ». D'ailleurs, il n'était pas loin de l'accrocher, parce que Tom Pidcock a vraiment craqué pendant le sprint.
Il avait fait beaucoup d'efforts,
et
hein,
tout le long de l'étape. Ça aurait pu presque le faire pour la troisième place. Bon, malheureusement, c'est quatrième sur quatrième, mais déjà être présent avec les quatre coureurs, c'est déjà très fort.
Il était là, il a tenu là les roues, il a fait beaucoup d'efforts. Il revient aussi quand Van Der Poel accélère.
Il est assez loin. Je sais plus à quel niveau il est, avec quel coureur. Je sais pas si peut-être Derrigui était là encore. Mais en tout cas, il est loin et il arrive à revenir avec eux. Donc, il fait là aussi un très gros effort. Il est monté très, très vite. Et donc,
Je crois qu'il revient avec Pidcock. Hein.
Avec Pidcock.
Bah, il me semble c'est les deux routes.
Oui, c'est Johan Eusen qui est juste derrière. Et après, il revient en effet.
Il revient un peu un par un
avec Tom Pidcock.
Je me demande si c'est même pas lui qui revient en dernier. Non, c'est Pidcock. T'as raison, c'est Pidcock sur la relance à la fin. Et après, il y a le problème mécanique de Pidcock avec ses magnifiques coups de talon qui a dû faire du foot dans le passé, je pense.
Ouais, puis c'est ce que tu peux pas faire grand-chose. Que même Mathieu Van Der Poel, le dernier kilomètre, il est devant tout le long. C'est lui qui prend le relais, donc tu peux pas jouer. Est-ce que Tanguy, tu peux être quasiment intimidé par le statut des autres coureurs avec toi, je veux dire, est-ce que tu peux, je prends toujours l'exemple de Jérôme Cousin qui était face à un Nils Polite de la Katiusha qui était quasiment inconnu et qui a dit à Nils Polite, écoute, roule mon grand, moi je roule pas, t'es meilleur que moi. Il l'avait laissé rouler pendant 5 km tout seul. Est-ce que quand tu te retrouves avec Mathieu Van Der Poel, avec Tom Pidcock, c'est un peu plus compliqué de dire, bon bah messieurs pardon, mais moi je vais sauter des relais?
Je pense qu'il aurait pu sauter derrière et que je pense que dans le groupe de trois coureurs qu'on de quatre coureurs qu'on avait, c'était le plus légitime pour sauter derrière.
Ouais.
Dans le sens où s'ils sautaient derrière, ils auraient éventuellement pu penser se dire bon, même s'ils sautent derrière, de toute façon, on y a de grandes chances qu'on batte pour le sprint. Mm-hmm. Mais cette tactique-là, elle était orientée du coup pour tenter une attaque, je pense, où aller
jouer la troisième place.
En c'est ça. Toujours optimiser, même s'ils sautent derrière, au mieux du mieux, ils faisaient troisième.
Ouais, mais même les
premiers. Mais bon, un podium, c'est ça aurait été exceptionnel.
Il
n'a
pas joué les points de la montagne. Je pense qu'il était à fond. Vraiment.
Ils étaient tous à fond.
Ça va tellement vite.
Mais de toute façon, la grille de points du meilleur grimpeur, là, quand on voit Mathieu Van Der Poel faire un kilomètre all-in, une montée exceptionnelle, un point. Alors, c'est pas cher payé.
Il n'y a pas beaucoup de points aujourd'hui.
Il y avait 10 points.
Franchement, c'est pas cher payé. Les efforts pour le meilleur grimpeur aujourd'hui, c'était vraiment pas cher payé.
Messieurs, on va ouvrir un grand chapitre. Désormais, on va parler tactique. Qu'est-ce qu'a foutu à eux à rouler pendant 30, 40 bornes, maintenant l'écart à 1,20. C'est quoi votre explication? J'ai pas compris. On pensait que c'était pour l'étape, je pense, on était tous d'accord. Pourtant, il reste 30 secondes à 5 km de l'arrivée, ils roulent pas. Quelle mouche a piqué UAE?
On a, il me semble qu'on a eu une intervention de Mauro Di Giannetti.
Allez, vas-y, on l'écoute tout de suite. On l'écoute tout de suite. L'explication du directeur sportif, du team manager de l'équipe UAE.
Ouais, c'était une étape vraiment très difficile. D'un côté, elle faisait peur à tout le monde. De l'autre côté, elle faisait envie à tout le monde. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu des attaques toute la journée. Nous, à un moment donné, on faisait le tempo, mais si on ralentissait un peu, il y avait tout de suite des attaques encore. Alors, il fallait garder un peu l'allure assez élevée pour calmer un peu le jeu. Mais finalement, sur la fin, bon, il y a des autres équipes qui ont essayé de rentrer sur l'échappée. Oh, c'était une étape impressionnante, vraiment très, très rapide. Et avec la chaleur qu'il faisait, c'était brutal.
Bon, ça, c'est la déclaration officielle. On a roulé pour éviter des attaques. Vous y croyez?
Moi, j'y crois. J'y crois dans le sens où... C'est vrai que quand ça veut attaquer, que tout le monde n'est pas sorti, en fait, je le classe autant dans un comportement de quand on a décidé que l'échappée est sortie, t'as loupé le wagon. Quand Jordan Jegat, il loupe l'échappée pour le maillot jaune, avec le jour où...
Oui, avec Anthony Turgis qui part en compte. Ça, je l'entends.
Ça, voilà. Et je pense qu'on rentre dans la même stratégie. Par contre, après, pourquoi avoir maintenu si proche?
Parce que, attends, à un moment, ils sont à 1,20, ils reviennent à 50 secondes. Ça ne peut pas, au contraire, encourager des attaques et encourager des coureurs à tenter de faire le job?
Le seul intérêt que je vois de ça pour eux, et j'ai du mal à croire que c'est ça, mais du coup le seul intérêt, c'est que justement ça intéresse des équipes à rouler, parce qu'une fois que Ineos, une fois que Trek se sont mis à rouler,
ils roulent pas après.
Ça, je pense que c'est
mystère et boule de gomme.
Moi, je vois pas. Le seul truc qui vient à l'esprit, c'est la force de l'habitude, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il n'y a pas vraiment d'équipe qui prend le lead, il n'y a pas vraiment de patron dans toutes les équipes qu'on l'on voit. Il y en a. Les Lidl courent là aussi très bizarrement. Ayuso, on le voit jamais. Les Bora, on les voit jamais. Donc ils prennent le manche, et pas forcément pour gagner, parce qu'ils auraient pu à un moment donné, s'ils avaient voulu, je pense, ils auraient pu accélérer et Pogacar serait peut-être revenu assez rapidement sur ce qui se passait devant. Donc l'habitude d'être devant, de rouler vite, de maintenir un écart respectable, mais voilà, juste pour rouler, puis arriver pas trop tard à l'hôtel. Mais sinon,
si on en est là, c'est inquiétant. T'es derrière, t'es dans les hauts. Pourquoi vous roulez, les gars? Non, mais nous, on veut aller regarder qui veut gagner des millions. Oh, bah non, mais quand même, n'abusez pas.
Non mais voilà, je pense que la force de l'habitude.
Moi, je vois trois raisons possibles.
Oh, non, mais là, trois. Voilà, bravo.
Possible. Ouais. Je dis soit.
Vas-y.
Soit
on va, on va dire oui ou non.
Comme le dit Genetti, ils ont voulu maintenir un écart. Et ensuite, ils se sont dit, si jamais ça roule avec une équipe, si jamais on fait le jump sur la dernière montée, Pogacar.
Eh ben, pourquoi ils le font pas?
Allez, parce que après, après derrière, ils ont pas voulu rouler. Deuxième solution.
Oui. Nous joue de la. Attends, on répond tout de suite ou tu veux dérouler? Ah, attends, tu veux qu'on oublie les arguments?
Il donne le deuxième. Le premier, c'est un.
Déjà, le premier, ça commence mal.
Le deuxième, c'est pour s'offrir des alliés de circonstance avec Ineos, parce qu'on a vu une discussion entre Kevin Vauclin et Tadej Pogacar, et juste après, c'est Tim Wellens qui allait rouler.
Ça, j'y crois. Alors après, est-ce que c'était l'idée
de... Attends, on laisse dérouler. On a dit qu'on le laissait dérouler. La parole est à la défense de la Team UE. Je rappelle que c'est Johan Bredov qui défend la Team UE.
Non, mais peut-être...
Enregistrez bien ça pour les prochaines émissions.
Non, mais peut-être que c'était ça. Et la troisième, et j'ai du mal à y croire, qui a été donnée par nos confrères d'Eurosport, c'est qu'on avait deux Lidl Trek qui étaient échappés. Et alors là, c'est le classement par équipe qui se jouerait. Il y a quoi, 27 minutes, 27 c'est ça, minutes, Ludo, 27 minutes d'écart entre Lidl qui est en tête et UAE. Et possiblement, ils auraient roulé pour ne pas avoir d'écart. Au final, personne ne prend d'écart. D'ailleurs, le statu quo et la Team Emirates passe devant la Red Bull. La Red Bull qui a été nulle, on pourra en parler.
Mais on va en parler.
Tanguy Turgis m'a envoyé des messages.
Deuxième équipe. Voilà les trois possibles raisons.
Est-ce qu'il y en a une qui te convainc plus qu'une autre?
La deuxième.
Celle des alliés de circonstance.
Ouais.
Tanguy, t'avais l'air d'y mordre.
J'ai essayé d'expliquer juste avant. Alors après, est-ce que c'était l'idée de base de on va rouler pour avoir ça? Je suis pas sûr. Mais après, au vu de la situation, au final, la dernière heure et demie, ils ont pas mis un mec à rouler. Les 50 derniers kilomètres, c'est pas du tout eux qui sont occupés de la course. Et ils étaient royales.
Bah, quel
effort relève, quel intérêt.
Mais quel intérêt, je comprends pas. S'ils ne roulent pas, il n'y a personne. Qu'est-ce qu'ils ne roulent pas non plus? S'ils se mettent derrière.
Ils auraient roulé de toute façon, mais les autres. Il y a bien Yon Izagirre qui roule pour Aramburu. Il a fait le sprint à Aramburu, en fait.
Justement.
Aramburu. Parce que j'ai mis en valeur le sprint de la Total Energy. On m'a dit, oui, ils n'ont pas fait le sprint. Aramburu, c'est un bon coureur.
Non, t'as dit, ils ont battu. Non, attends, tu nous as sorti. Nicolas Breuillard a battu Tadej Pogacar.
Ok, d'accord.
On t'a dit, certes, mais il a battu Tim Merlier aussi.
Aramburu. C'est un bon...
Parce qu'on bon puncher. Même... Oui, bon puncher.
800 mètres, 4-5%.
Ouais.
Il fait quelle place? Juste derrière. Pogacar 11, Evenepoel 12, Del Toro 13, 14e, Aramburu. Donc lui, il a fait un sprint, il a tout mis, il bat pas des mecs qui ont sprinté à moitié. Donc, Nicolas Breuillard et Jordan Zigat ont fait un beau sprint.
Oui, bravo.
De toute façon, ils sont dans les 10. Et de...
Alors moi, j'ai un problème avec votre théorie des alliés de circonstance, Ineos, etc. Parce qu'en faisant ça, tu risques quand même surtout de faire des ennemis. Tu risques un peu que ça grogne dans le peloton. Parce qu'un mec comme Mathieu Van Der Poel, à mon avis, si on roule et qu'on revient dessus, il ne va pas être content, il ne va pas comprendre. Tom Pidcock, il ne va pas comprendre, il ne va pas être content.
Oui.
On ménage souvent les sensibilités quand on est trop fort. J'ai l'impression que...
Si je peux être honnête, c'est ce que j'ai pensé pendant la course. C'est-à-dire qu'on en parlait que c'était des
cannibales. Tu peux être honnête, hein,
non, mais
c'est le but.
Ce que je veux dire, c'est que c'était des cannibales qui voulaient tout gagner.
Ben, c'est ça.
Et là, je me suis dit, là, celle-là, franchement, s'ils vont la chercher, c'est là va faire du bruit. Parce que je me suis dit, là, quand tu as une arrivée dans une montée comme le deuxième jour, des trucs durs où vraiment tu fais la course pour gagner l'étape, Pogacar, c'est un favori. Aujourd'hui, l'arrivée ne lui correspondait pas vraiment.
La preuve, un
Philippe Ogana, un Pedersen était meilleur que lui. Je me suis dit, là, s'ils vont la chercher, là, ça risque de dire, ah ouais, ils nous laissent
vraiment rien. Parce qu'en plus, il fallait se débarrasser de Pedersen,
Oh, mais ça, il s'en serait débarrassé. Il aurait attaqué dans le radar, Tadej Pogacar. C'est là où il aurait attaqué. Il serait parti, ça se trouve, avec Del Toro. Et alors là, ça roule à bloc. Et derrière, ça ne revient pas. Moi, je vois que ça. On n'en sait rien, mais je vois que ça. Je me dis, ils se sont dit, on va se faire des alliés de circonstances. Et avec Ineos, ensuite, si jamais ça revient avant le radar, on attaque. Je pense que c'est ça.
Mais tu fais surtout des ennemis, du coup, parce qu'il y a encore plein de coureurs qui ont dit à la fin. Tous ceux qui sont arrivés à la fin, Jegat qui disait super, on ne sait pas pourquoi ils ont couru.
Tu te fais comme ennemi. Total Energy, Alpecin qui ne roule pas, Pinarello qui ne roule pas. Mais
tu sais, après, c'est aussi.
Après, je ne parle pas des équipes. Tu te fais Van Der Poel et Pidcock. Pogacar, il les considère.
C'est pas un ennemi à Pogacar.
Justement, c'est pour ça que je ne comprends pas qu'il roule.
Mais oui,
mais on ne parle pas d'ennemis au sens rivalisé, parce que personne ne peut le faire. Mais quand tu es détesté par
tout le monde. Sans être
détesté. Mais oui, mais ils s'en fichent.
Non, mais voilà, c'est bien le problème.
Limite, c'est
qu'ils s'en fichent.
L'odeur du sang.
Ça rappelle des mauvais souvenirs. Se foutent de tout et de tout le monde. Donc là, quand ils roulent comme ça, ça écœure énormément de coureurs, encore une fois. Et comme eux, ils roulent plus vite que les autres, dès qu'ils prennent le train, ça donne ça.
C'était une question à poser. Je vise personne, mais c'était une question à poser à Tadej Pogacar au moment de l'arrivée.
Moi, je pensais que c'était un peu le harceleur, le dur à cuire de la cour de récré, qui voulait montrer qu'en fait, s'ils veulent aller chercher l'échappée, bah ils peuvent. Et puis que là, c'est le fait du prince, ils disent, bah finalement, on vous le laisse.
Peut-être.
En gros, on te vole ton goûter à toutes les cours de récré. Cette fois, on dit, pas cette fois. Mais par contre, tu m'en dois une.
Ils ont quand même roulé un certain temps.
Ouais.
C'est ce que je disais, c'est la force de l'habitude. C'est qu'à un moment donné, ils disent, tiens, nous, on va rouler. Donc, ils roulent, comme ils roulent plus vite que les autres, tout d'un coup, tout le monde recule parce qu'ils mènent un train d'enfer. Et puis que là, il n'y avait pas forcément de raison. Parce que si... D'ailleurs, on voyait Pogacar a discuté plusieurs fois avec ses coéquipiers. Donc, je ne sais pas ce qu'il se disait, mais je ne sais pas s'il y a eu hésitation ou pas. Mais peut-être qu'à un moment donné, ils se sont dit, tiens, peut-être qu'on peut aller la gagner. Et puis finalement, Pogacar a dû dire, non, pas celle-là, laissez, on en gagnera d'autres.
Bon, cette émission, c'est avant tout la vôtre. Charles est avec nous au 32-16, touche 9. Salut Charles.
Ouais, salut l'équipe.
Salut Charles.
Salut Charles. Salut Charles. Est-ce que toi, tu as une explication sur la tactique UAE?
Non, je n'ai pas beaucoup d'explications sur la tactique UAE. Je pense qu'on a déjà tout dit. Les mecs, c'est un peu des ogres, hein, on sait très bien. Ils ne sont pas là pour faire des potes. De toute façon, c'est eux les patrons, ils courent en patron, donc point barre. Après, c'est au courant de s'adapter, c'est tout. Ils sont pas là, ils font pas du social, là, les UAE. Hein. Ils sont là pour tout gagner.
Pourquoi ils cherchent pas à gagner? Pourquoi ils roulent pas dans les 10 derniers kilomètres pour aller chercher la victoire? C'est ça qui me.
Parce que peut-être que, mais peut-être qu'ils ont compris que devant c'était quand même costaud. C'est pas, on n'a pas des peintres, hein. On a quand même Van der Poel, Pitcock. On n'arrive pas à rentrer facilement. Le terrain s'y prête pas trop pour attaquer. C'est pas facile, il fait chaud, il y a encore les trois fans, ils ont tenté, à mon avis ils ont payé pour voir, et puis c'est tout, ils ont, à la régulière, il n'y a pas photo quoi.
Et puis après, l'un des rares coureurs que Pogacar respecte, c'est quand même Van der Poel. Donc le fait qu'il soit devant, je ne sais pas si ça, à un moment donné, ça lui donne peut-être pas envie d'y aller parce que il sait très bien que là, pour le coup, il a une chance de perdre, alors que pour la plupart des coureurs, quand il décide d'y aller, il va gagner. Hein, donc je ne sais pas si c'est l'explication.
Toi, tu voulais réagir sur l'étape au sens large, Charles ?
Ouais, alors moi, j'ai bien aimé l'interview de Baudin parce que tout le monde, c'est facile, devant sa télé, dans son canapé, critique le fait qu'il ait passé les relais, mais je pense qu'il était déjà très heureux d'être là. Il sait très bien qu'il courait perdant, mais finalement, c'est pas si mal. Alors, c'est sans la joueuse loser, hein, mais il sait très bien qu'en fait, de toute façon, il aurait été dans le peloton, il aurait terminé 30e, et voilà, là, au moins, même s'il a 1% de chance de gagner en étant avec les trois gros costauds avec lesquels il a été échappé, au moins, il savait très bien que c'est un bon déblocage pour l'étape de mardi. Du 14
juillet, bon déblocage,
extrêmement dur. Ouais, un très bon déblocage. Il est avec des costauds, il se fait plaisir, il se met la caisse. Moi, je trouve que franchement, c'est pas trop mal joué de sa part. Alors oui, il passe des relais, mais de toute façon, ils étaient condamnés. Les mecs, ils sont revenus à 6 secondes à la fin, donc s'il n'avait pas pris de relais, il jouait perdant. Donc finalement, le gars, il faut regarder le verre à moitié plein pour Baudin. Et je suis plutôt content. Et encore une fois, il a fait un énorme effort pendant 4 heures. Il a réussi à prendre l'échappée. À se mettre comme il faut, à se taper la cabane comme il fallait. Et moi, je trouve qu'il prouve qu'il est en forme. Et c'est plutôt très positif.
Ah, moi, je suis d'accord avec toi, Charles. Je pense que c'est grisant d'être dans une échappée avec un triple vainqueur de Paris-Roubaix, un triple vainqueur du Tour des Flandres, un champion du monde, un mec qui a gagné l'Estrade Bianche, un mec qui a gagné l'Amstel et un mec qui a fait 6e du Tour de France. C'est ça, un petit peu, Tanguy, non? Tu fais partie, quand tu es avec ces mecs-là, tu fais partie de ces mecs-là.
Je suis d'accord. En fait, t'as d'esprit aussi. La seule chose, c'est que c'est pas le même registre que les coureurs avec lesquels ils étaient. Comme je disais tout à l'heure, en fait, ils étaient quatre hommes forts. Sauf que, comme tu l'as bien expliqué, Tom Pidcock, Mathieu Van Der Poel, entre autres, c'est des coureurs rapides, un peu plus flandriens, alors qu'Alex Baudin, c'est quand même plutôt un grimpeur.
Ouais.
C'est juste la seule différence, mais dans son registre, Alex Baudin avait sa place dans ce groupe.
Ouais, puis c'est un état d'esprit de jouer le jeu, en fait, de pas se mettre derrière, à plus prendre un relais. Je pense qu'il y a des coureurs qui le feraient plus facilement. Baudin, c'est un coureur qui est jeune, qui a 25 ans. Donc je trouve que il montre aussi un certain état d'esprit. Je suis là, je roule, même s'il le savait, il l'a dit, qu'il avait pratiquement aucune chance de gagner. Mais en tout cas, il joue le jeu. Et ça, c'est pas mal.
Pour moi, c'est ce qu'il fallait faire. La seule chose qu'il pouvait faire différemment, et ça aurait sans doute donné le même résultat, ça aurait été d'arrêter de prendre des relais pour essayer une attaque ou s'économiser pour le sprint. ça aurait fait troisième au mieux, et encore, on n'a aucune garantie que ça fasse troisième. Donc, pour le coup, il a tenté sa chance à 100%. Dans le fond, vu qu'il partait perdant, lui non plus, n'avait pas d'intérêt à ce que ça rentre en soi, parce que si ça rentre, il n'est même pas top 5. Pour moi, il n'a pas fait d'erreur dans le final.
Charles, c'est pas ces étapes de moyenne montagne qu'on préfère en réalité sur les grands tours. J'ai l'impression que c'est à chaque fois les scénarios les plus ouverts.
Ouais, clairement, on a regardé ça. Même ma copine, qui n'est pas forcément une grande sachante, elle s'y met au vélo. Là, c'est le genre d'étape pour découvrir le Tour de France. C'est que du bonheur parce qu'il y a du suspense jusqu'à la fin. On se marre bien. C'est pas les grandes étapes de montagne qui, à chaque fois, accouchent d'une souris sans faire un jeu de mots. Là, au moins, il y a du suspense. Les mecs, ils reviennent à 6 secondes. Quoi. Dans les deux derniers kilomètres, c'est pas encore acquis pour la victoire. C'est pas s'ils allaient se regarder. Même Pidcock, il était capable, sur le papier en tout cas, de causer des ennuis à Van Der Poel. Donc, ouais, c'est clairement le genre d'étape où on se régale le plus. Moi, ça me rappelle un peu, alors toute proportion gardée, mais l'étape qui est une des plus belles pour moi de ces 10 dernières années, c'était 2019 à Saint-Etienne. Bon, alors, on est un peu chauvin, mais avec Alaph et Pinot qui s'échappe avec De Gendt qui gagne avec 3 secondes d'avance. Il y avait de la basson à tous les étages, donc ouais, c'est clairement ce genre d'étape qu'il nous faut. Alors là, petit bémol quand même sur le parcours, parce que la dernière difficulté, elle était quand même un peu loin de l'arrivée. On aurait bien voulu que Baudin attaque, mais déjà, bon, il fallait avoir les cannes, mais surtout, il n'y avait pas forcément la petite bosse qu'il fallait. La petite rampe de lancement, mais en tout cas, bravo quand même.
Je suis pas d'accord avec toi. Là, je t'avoue que je crains que si on a une difficulté vraiment plus proche de l'arrivée, ouais, ça puisse aiguiser l'appétit, ouvrir l'appétit des leaders du général. Là, je pense que c'est pas mal parce qu'en fait, c'est un peu trop. Alors, on sait que Pogacar, il peut attaquer à 70 ou 80 bornes. Vous allez me répondre ça. Bon, vous
n'avez pas moins sur le tour.
Moins sur le tour. Mais c'est vrai que là, ça fait loin quand même pour attaquer. Donc, ça favorise encore les échappées.
Je suis d'accord avec toi. Je pense que si on avait eu le radar, pour le coup, UAE aurait vissé, aurait roulé pour
l'étape. Non, mais je suis pas sûr, Charles. Il a raison. Si, imagine, il y avait eu un radar à 10 km de l'arrivée, peut-être que Baudin serait parti. Et aujourd'hui, on aurait levé les bras.
Il fallait lâcher Van Der Poel dans la montée dure
à 23 km de l'arrivée. Le plus fort, c'était Mathieu Van Der Poel.
Largement.
Donc, je suis même pas persuadé qu'il
ça dépend des pourcentages. Oui, les gros pourcentages, Baudin.
Il aurait fallu plus long.
Oui.
Mais il faut le trouver dans le.
Et puis il faut se faire Johannessen hein, aussi. Oui, parce que Johannessen, sur un effort punchy, là déjà il était très très fort.
Donc, Baudin,
franchement, déjà immense respect, mais je pense qu'il ne peut pas espérer beaucoup mieux. Peut-être Pidcock qui était mourant parce qu'il a. Ouais, c'est beau déjà hein, d'être. Est-ce qu'on pourrait imaginer un Tour de France avec cette étape de moyenne montagne d'en avoir beaucoup plus parce que finalement c'est beaucoup plus ouvert. Niveau spectacle, on se régale. Est-ce que si on en met 7, le spectacle qui risque de baisser, ça va un petit peu se diluer? Vous en pensez quoi, messieurs? Vu qu'on parle beaucoup du parcours, on parle beaucoup de la chaleur. Là, il y avait alerte rouge, canicule, il y avait 40 degrés. Et pourtant, on a eu un spectacle de dingue, Tanguy.
Non, moi, c'est les étapes que je préfère. Donc,
j'envoie un message à Thierry Gouvenou.
Je vais aller dans ce sens-là. Moi, c'est les étapes que je préfère. Sur l'année, hormis le contexte, sur la saison complète, hormis le contexte flandrienne avec les courses en pavé, la course que je préfère, le final que je préfère, c'est Milan-San Remo. C'est pas très dur. Il y a juste le podio avec de la fatigue. Et c'est la course où des grimpeurs, sprinteurs, rouleurs, bons coureurs peuvent jouer la victoire. Et c'est celle-là où on s'amuse le plus, finalement. En tout cas, en tant que spectateur à regarder. Je parle pas sur la longueur, je parle vraiment sur le final. Là, c'est les étapes où on s'amuse le plus aussi. Finalement, même je peux mettre mon Jouic aussi dedans.
Oui.
C'est les courses où tout le monde peut jouer. Dès que c'est trop dur, c'est des belles étapes, mais c'est différent.
Après,
c'est différent.
Dans un registre un peu différent, le Lioran, je pense aussi que ça va jouer énormément. C'est-à-dire que là, ça monte, ça descend, c'est plus long, c'est peut-être c'est plus dur, mais ça peut être des étapes où encore des Baudin, des Johansen peuvent les Carapaz peuvent se retrouver devant.
Mais plutôt du coup avantager les grimpeurs.
Ouais. Plus.
Là le profil était dur, mais ça avantageait plutôt les punchers.
Les baroudeurs.
Mais pour moi c'est ce profil de course là qu'on aura. Et après bon il y a toujours des courses de montagne, mais par contre on pourra peut-être assister à une autre gestion d'étape au lieu de faire vraiment une semaine purement montagne. Pourront peut-être faire un turnover on va faire une montagne puis un sprint.
On peut passer deux semaines en Corrèze. Et puis faire des étapes.
Bien sûr, le Tour de Corrèze. On va avoir Clément Braz à fond de fond à chaque étape. Être à l'avant.
Ouais, et pour le coup, je pense que le classement général du Tour de France serait le même. C'est-à-dire que même en ayant moins de courses de montagne, les écarts seraient un peu différents. Ouais. Mais si on organise bien, parce que là, les courses comme ils ont fait aujourd'hui, elles sont fatigantes. On voit un team merdier. Et donc, la fatigue serait la même. Donc, en fin de Tour de France, pour moi, la gestion de fatigue, on parlait ce matin d'un Paul Sexas, comment gérer la troisième semaine, serait plutôt identique. Parce que les courses, elles sont dures quand même. Aujourd'hui, ils arrivent à 30 dans le peloton, même pas.
Et puis, je regardais l'année dernière, ce genre d'étape, on en a eu beaucoup. Hein. On en avait 4, 5, 6, 7, 8, peut-être 8.
Ah, ouais.
Donc, en fait, souvent, on les met.
Il y en a de plus en plus.
La première semaine avec Boulogne, Rouen.
Le Tour de France de l'an dernier, la première semaine, moi, j'avais beaucoup aimé.
Bien sûr.
Charles, comment tu juges la première semaine de cette année du Tour de France? Tu prends ton pied ou pas devant le Tour?
Alors, ça dépend. En fait. Niveau classement général, pas vraiment, parce que les choses sont déjà actées. Après, sur certaines étapes, oui, on se régale, comme aujourd'hui. Typiquement, aujourd'hui, ça a clairement sauvé la semaine. Hein. Mais oui, Pedersen aussi, j'ai trouvé plein de panaches dans les Pyrénées. Mon pied, ça serait un peu... Je ne me suis pas le plus régalé cette année. Mais
termine sur une bonne note, cette semaine.
Ouais, quand même. Ouais, ça termine sur une bonne note aujourd'hui, mais j'ai hâte de voir l'étape de mardi, parce que sur des routes terribles, un revêtement qui ne rentre pas, avec de la chaleur, il n'y aura pas de gros suspense au niveau des deux, trois premiers, mais je pense qu'il peut y avoir de grosses défaillances, il peut y avoir du vélo quand même, de l'attaque dans le Cantal, ça va être un bonheur.
Et puis c'est le 14 juillet.
Et puis c'est le 14 juillet, alors je pense pas qu'on est si on a peut-être Martinez, mais ça va être compliqué parce que
t'oublies personne, là je suis avec Tanguy Turgis, directeur sportif de la Groupama FDJ United. T'oublies pas un Français pour mardi,
un maillot bleu blanc,
un maillot.
Moi j'aimerais, j'adorerais que Romain gagne.
L'envie elle y sera, alors j'ai aucun doute là-dessus.
Et il y en a un qui a dit qu'il était très excité par l'étape de mardi, il s'appelle Tadej Pogacar.
Oh non, mais pourquoi tu nous dis, sérieux, on est pas drôle, on imagine une victoire de Lenny Martinez, de Romain Grégoire. Il vient nous embêter avec Tadej Pogacar.
À deux, Pogacar. Trois minutes de Lenny Martinez.
Deuxième derrière Del Toro.
Non, mais par contre, ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'une étape comme aujourd'hui, où on a raboté 30 km, une étape de 150 km, on peut se rendre compte que ça suffit. Et que c'est souvent des étapes comme ça, un peu courtes. Il y en a eu plusieurs sur le Tour et à chaque fois, souvent pour des raisons climatiques. Et ça donne des étapes assez dingues. Et donc, peut-être pas la peine de faire des étapes de 200 km, de 220 km.
C'est l'ADN du vélo, quand même. C'est l'ADN des grands tours. C'est un sport d'endurance.
Moi, j'aime assez ce genre d'étapes. Et les efforts, ils sont là. On a
de moins en moins déjà des étapes très longues de plus de 200 km. Non, avant, on en avait davantage.
Tony Galopin l'a super bien dit ce matin. Il a dit, parfois, on veut raccourcir, on pense que c'est mieux. Alors, c'est sans doute mieux parce que ça fait une semaine que les coureurs, ils en ont plein les baskets.
Sous 40 degrés.
Mais il dit, parfois, plus court pour plus dur, c'est mieux quand ce soit un peu plus long et plus cool. Pour les coureurs. Par contre, tout dépend le profil de l'étape. Je reprends l'exemple de Milan-San Remo, c'est super facile comme course.
Ouais,
mais c'est les coureurs énormément de kilomètres, la toute petite montée que tu montrais en début de course où il ne se passerait rien, on voit des dégâts de tous les côtés. Donc ça dépend, pour moi, il faut un peu de tout.
Oui, puis c'est dur parce que Tadej Pogacar et Van der Poel qui accélèrent.
Non, mais super facile en plus. Bon, ça me fait rire. Toi, évidemment, t'as été cycliste, mais Milan-San Remo, c'est.
C'est 250 km, ça va.
Sur une sortie de.
Un petit dimanche.
Tu vas rouler un petit 2 heures tranquille, c'est pas la fin du monde, le podio.
C'est Charles qui nous disait c'est un déblocage pour mardi. Là, cette étape, c'est un peu un déblocage pour mardi.
Bon, d'accord. Excuse-moi, là, aujourd'hui, ils ont encore roulé à 45.
Oui, 45. Mais par contre, ils avaient fait une fois, vous vous souvenez, vous avez fait le départ un peu en mode Formule 1.
Affreux.
Je trouve ça nul. Ça, d'ailleurs, ils ne l'ont jamais refait parce que c'était un loupé.
T'as raté.
Mais petit 100 km, 120 km, une étape bien organisée. Ça peut être très dur et très intéressant.
Ouais, mais moi, j'adore ces
étapes. Avec du dénivelé.
T'en as une de 120 km. Ce sera l'Alpe d'Huez.
Ça triche un peu. Il y a l'Alpe d'Huez.
Ouais. Ça va être le feu.
Je parlais pas aussi dur.
Merci Charles d'avoir été avec nous. N'hésite pas à revenir.
Merci à tous. Et puis on se rappelle mardi avec la victoire de Baudin.
Bien sûr.
Avec plaisir.
Et de l'équipe de France, Charles, c'est important.
Dommage. On aura plus Charles dans notre livre.
T'es pessimiste.
On aura les bleus.
Là.
Merci Charles d'avoir été avec nous. Messieurs, on continue notre petit tour de tactique. Qu'est-ce qui s'est passé à la Lidl? Est-ce qu'on s'est trompé ou on est satisfait? Johan, est-ce que tu peux nous faire un petit point justement sur ce qui intéresse la Lidl, c'est-à-dire le maillot vert? Parce qu'on a l'impression qu'ils ont davantage même couru pour le maillot vert sur cette étape que pour l'étape, Johan. Ça donne quoi ?
Eh ben, ça donne que Mats Pedersen a pris 40 points au total, Mats Pedersen, parce qu'il prend les 25 points du sprint intermédiaire et les 15 points de sa 6e place au final, et donc il s'est détaché en tête du classement maillot vert avec désormais 45 points d'avance sur Binyam Girmay et 55 points d'avance sur Tim Merlier, qui a souffert, qui a même pas pu faire, qui a été décroché juste avant le sprint intermédiaire. Donc pour l'instant, bah, c'est les étapes parfaites pour Mats Pedersen pour aller chercher le vert.
40 points sur 55 possibles, c'est quand même mignon. Comment tu juges, Tanguy, la prestation des Lidl?
Pour moi, ils ont fait une erreur.
Ah, je l'adore.
Non, mais en fait, pour moi, alors, autant à l'étape de Foix, c'était une masterclass. Ouais. Aucun souci. Ils
ont avec Vacek, avec Simon, c'est la victoire de Mathieu Larsen.
Du début à la fin.
Explique-toi à quel niveau, parce que pas au niveau de Pedersen.
Moi, j'en vois deux.
Après, c'est facile à parler après coup. Attention, on analyse. Pour moi, s'ils voulaient jouer la victoire d'étape avec Mathieu, en fait, ils n'ont pas su prendre de décision assez tôt de savoir est-ce qu'on joue l'échappée ou est-ce qu'on joue Mats Pedersen. C'est-à-dire qu'ils ont laissé rouler Ned Company Ineos, qui pour eux, ils ont parlé du classement général. Mais au vu de ce qui se passe à la fin, pour moi, c'était clair. Et
on
du
va
début.
En parler aussi.
Et j'espère.
Restez avec nous. On garde le meilleur pour la fin.
En fait, pour moi, si Lidl Trek aujourd'hui voulait jouer la victoire, parce que le sprint, attention, il est un peu biaisé par le fait que Mats Pedersen tente le tout pour le tout et lance à 600 mètres de la ligne d'arrivée.
Bien sûr.
Mais ils avaient le pouvoir de rentrer, pour moi, sur l'échappée avant la montée de 25 km. C'est-à-dire qu'il y avait 1 minute 10 à ce moment-là. Il y avait uniquement Ned Company Ineos qui roulait. Ils ont deux coureurs devant qui peuvent désorganiser. Et là, vous mettez un gros coup de force derrière avec...
Mais donc, ils ne se relèvent pas. On laisse Quinn Simons et Derek G. Et on dit à Carlos Verona, par exemple, de rouler avec UAE et Ineos.
C'est oui, ou même, il peut y avoir plusieurs solutions. On peut aussi en laisser un.
Oui. Quinn Simons, par exemple, le plus fort.
On enlève Derek G pour avoir un coureur derrière de plus. Et on met all-in sur un choix. Là, ils ont voulu jouer sur les deux tableaux un peu en mode si nos deux coureurs passent, on joue l'échappée. S'ils ne passent pas, on les fait se relever. Et d'ailleurs, même là, la décision, j'ai trouvé qu'elle était longue à prendre parce qu'ils ont dû basculer à peine 10 secondes. Forcément, la montée, elle faisait 900 mètres. Donc, ils ont pas réussi à passer avec Mathieu Van Der Poel, mais ils ont basculé à peine 10 secondes. Le haut de la montée était à 24 km. La décision de Quinn Simons qui arrête de rouler avec le coureur de
Van Edvelt.
Voilà. Elle est intervenue au 18e km. Donc, on a perdu encore 5 km. Ce n'est pas des gros détails, mais il leur manque combien à l'arrivée? Il leur manque 10 secondes. 5 km, c'est énorme. 5 km, t'as 2-3 coureurs qui passent. Ça peut faire, au lieu que ça se regarde devant, bah, du coup, ça se regarde un peu plus. Tout est diminué en temps. Carlos Verona qui aurait pu revenir plus tôt. Pour moi, Lidl Trek aujourd'hui aurait dû faire rouler Verona plus tôt et plus jouer devant et prendre la décision vraiment à 30 km de l'arrivée.
Et sachant qu'au pied de la dernière montée, il n'y a que 30 secondes d'avance pour le groupe Mathieu Van Der Poel qui a bien ralenti avant d'attaquer et après il double son avance. Et puis moi, je rajouterais, Verona doit rouler plus tôt, certes, mais derrière un skill mosé avec
bien toi, sûr
pour
merci
moi
Johan.
Dans cette équipe doit prendre un relais. On se rappelle, on en a parlé, on regardait ensemble, on se rappelle de Victor Laffey qui piège Wout Van Aert et Jonas Vingegaard qui ne donne pas un relais, Jonas Vingegaard qui juste après s'excuse auprès de Wout Van Aert. Pour moi, on est à peu près dans la même.
Pour moi, c'est pire parce
équation.
Qu'ils sont deux. Il y a Ayuso aussi.
Tu peux mettre Skelmose Ayuso qui roule. Je pense que dans les montées non répertoriées à 7%, ils auraient repris du temps. On a vu que quand Carlos Verona prend son relais, il reprend 10-15 secondes. Ouais. Je pense qu'un Ayuso Skelmose, ça revenait, et tu as raison, ça échoue à 6 secondes. Je pense qu'il serait revenu au moins dans le sprint pour lancer Pedersen.
Vous dites ça que par rapport à Pedersen?
Ah oui. On parle de victoire d'étape. Aujourd'hui, le premier coureur, c'est Mats Pedersen, Lidl Trek. Même dans le sens point pour le maillot vert, à minima, il aurait fait deuxième du sprint, du coup, il aurait pris encore plus de points.
Voilà, pour moi, est-ce qu'il était en position de fond? On l'a vu, dès que ça grimpait, il était quand même au fond du peloton, ce qui est assez logique, parce que ça grimpait très, très fort. Est-ce que. Moi, on ne peut pas leur reprocher d'avoir. Ils ont une équipe de rêve quand même, ce qu'ils font.
Oui,
mais ils sont.
Justement,
trop d'individualité.
Moi, le problème, c'est plus Skelmose et Ayuso, qui sont. D'accord. On ne les voit pas, ils sont éparpillés, jamais un relais. Ayuso, franchement, il ne fait rien pour qu'on l'aime.
Je suis complètement d'accord là-dessus. Mais du coup, je me demande, comme à l'étape de Foix, la décision, elle a été prise vraiment en mode.
On a mis tout le monde en ligne.
On a privé.
Oui, mais Tanguy, t'as deux coureurs devant. C'est
mais justement
ce que tu dis. Tu joues la gagne. T'as deux mecs qui peuvent gagner quand même.
Ben non, justement, c'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Il y a eu un manque d'honnêteté, de franchise de la part des deux coureurs. Ah. Il y a une montée de 900 mètres. Les deux, ils lâchent. Et ils doivent le sentir dans les jambes avec l'expérience qu'ils ont. Et donc, s'ils sont honnêtes, ils doivent dire les gars, je ne suis pas capable de gagner. Et là, décision Mats Pedersen. Pour moi, je me demande s'il n'y a pas eu de... Ah, à fois, on a grillé leur chance pour Mats Pedersen, alors que Quinn Simmons et Matchak auraient pu gagner. On va leur laisser leur chance. Ah mince, ah là, ils ont lâché. Ah, faut qu'on adapte. Et au final, si la décision a été prise directement, les gars, notre leader, c'est Pedersen. Il a eu le plus de, c'est lui qui a eu le plus de chances de gagner à la fois. Encore aujourd'hui, c'est lui qui a le plus de chances. Terminé, l'analyse a s'arrêté. Alors, si, il faut être factuel parfois. Et là, ça aurait
dû là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que je pense que Quinn Simmons avait les jambes d'être avec les quatre plus forts. Mais ils font une autre erreur,
ah oui,
à mon yeux, gravissime.
Oui,
c'est qu'à partir du moment où ils ne prennent pas de relais dans la dernière difficulté, ils se mettent à l'arrière du groupe et ils disent, messieurs, relayez. Sauf que tu ne dois pas être là. Tu dois être soit dans la roue de Mathieu Van Der Poel, soit dans la roue de Pidcock. Van Der Poel, il attaque. Quinn Simmons, il est à 10 coureurs derrière. Et finalement, il bascule 5e. Je pense qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'erreurs parce qu'ils n'ont pas su trancher.
Elle est très importante. Et par contre, non, moi, je rejoins sur l'analyse. Je pense qu'ils n'ont pas osé prendre une décision. Parce que sur, là, oui, c'est simple à dire. Philippe Ogana, le bal au sprint de Mats Pedersen. Mais sur le papier, derrière, Mats Pedersen, c'est de très loin le plus rapide. Ouais, 800 mètres pour plat montant. C'est le pur favori derrière. Alors que devant... même si Quinn Simmons, ils avaient passé, battre Mathieu Van Der Poel, c'était pas donné. Mm-hmm. Donc pour moi, ils avaient plus de chances à gagner derrière.
Pedersen est plus favori face à Ghana et Pogacar que Quinn Simmons face à Van Der Poel et Pidcock. Hein.
J'ai du mal à acheter ça parce que si je me dis, si jamais ils étaient arrivés tous ensemble, là pour le coup, je pense que Pogacar, Del Toro, ils auraient aussi joué la victoire. Donc c'est
moins rapide que Mats Pedersen.
Ils sont moins rapides.
Je pense que c'est managérial. Je pense que c'est une gestion des hommes. Je pense que Tanguy a raison. On n'a pas voulu dire à Quinn Simmons, écoute, vas-y, relève-toi, t'as aucune chance. Et on lui a dit au dernier moment.
Après, je suis pas sûr que Simmons était si fort que ça parce que derrière, quand il attend et qu'il prend relais, il s'écarte vite, il reprend pas une seconde.
Je pense qu'il est dans les 4 mais qu'il gagne pas. Enfin, dans les 5 donc. Mais je pense qu'il avait Alex Baudin, mais qu'il gagne pas. Mais il gagne pas.
De toute façon,
je suis d'accord avec toi.
Il fait tellement d'efforts. Il y a aucun autre coureur qui est capable de gagner contre ce Mathieu Van Der Poel là.
Déjà. Même un Pedersen, trop fort.
Même un Pedersen face à ce Mathieu Van Der Poel là, je suis même pas sûr.
Ouais, je suis d'accord.
Là, Ludovic, à la fin de la course, par exemple, s'ils avaient roulé sprint, Mats Pedersen se fait rebattre par un Mathieu Van Der Poel, un Matthews ou même un Pogacar. À la fin de la course, ils arrivent, ils expliquent, on a roulé parce qu'on a estimé que Simons ou Derek J auraient perdu contre Mathieu Van Der Poel. On a voulu miser 100% victoire, on a fait ramener sur Pedersen. Je trouve que tout le monde aurait dit, bah oui, ils ont fait un choix, ils ont estimé.
Je peux comprendre la décision de dire Simons, il est dedans tous les coups, il travaille énormément, il est devant. Laissons-le essayer d'aller gagner. Pedersen venait déjà de prendre le sprint intermédiaire. La preuve, il a fait 6, il a encore pris 15 points. Donc, il est largement devant. Moi, ça ne me choque pas.
Ça ne me choque pas, je dis qu'il y a eu l'erreur.
Déjà, la dernière fois, ils ont arrêté tout le monde pour Pedersen.
Ouais, mais c'était la bonne décision.
Et il a gagné.
Et aujourd'hui, il a gagné le maillot vert grâce à ça aussi.
Oui,
la bonne décision.
De toute façon, oui, il est bien parti. Mais dans cette équipe-là, on a bien compris qu'il y avait, il y avait deux pôles. Et le deuxième pôle, c'est Skelmose et Ayuso. Et là, a priori, c'est plus compliqué. Et eux, a priori, ils n'aident pas.
Ils n'aident pas. Puis quand c'est dans leur intérêt pour revenir sur Vingegaard...
Ils ne roulent pas non plus. C'est quoi ? C'est pas possible. Ils pourront au mieux faire la cinquième. Alors, je sais bien que cinquième, c'est magnifique. Mais bon, là, quand même, rouler... En plus, demain, c'est repos. Tu n'as même pas une étape de montagne.
Oui,
tu ne files pas un coup de pédale pour Mats Pedersen qui devient immense favori. Ça m'énerve. Changeons de sujet, messieurs. Allons voir Damien. Salut Damien au 32-16.
Salut l'équipe.
Salut Damien.
Damien, toi, ce qui t'a énervé, c'est l'attitude des collègues d'échappée de Mathieu Van Der Poel. Ils auraient dû attaquer.
Collègues d'échappée, après, comme vous dites, de la Lidl Trek aussi. Mais collègues d'échappée, tout d'abord, parce que je trouve qu'on lui a amené la victoire sur un plateau aujourd'hui. Alors peut-être, il est bien plus fort que les autres, c'est vrai, mais peut-être qu'un Baudin aurait peut-être pu attaquer un peu plus tôt.
Il était à fond. Quitte
à savoir qu'il n'allait pas gagner. Voilà. Johansson, c'est pareil, ils savaient qu'ils n'allaient sûrement pas gagner et ils ont mis des relais jusqu'à la fin. C'est ça qui m'a le plus choqué.
Oui, mais alors je pense que c'est impossible d'attaquer sur Mathieu Van Der Poel parce que
il va te reprendre.
Oui, voilà, c'est ça. Pour attaquer Mathieu Van Der Poel, c'était quoi ? Dans la montée, mais c'est le plus fort. Donc tu ne peux pas l'attaquer. Puis derrière, il y avait les petites montées non répertoriées à 6-7%. Mais pareil, ils déploient tellement de puissance et ils sont à fond durant toute la journée, hein, les coureurs. Je pense que c'était impossible d'attaquer. Alex Baudin n'a pas la puissance nécessaire pour le faire. Johannessen, lui, il avait autre chose à jouer, c'est-à-dire la place au général et essayer de gratter des secondes.
Finalement, il prend 6 secondes.
Finalement, il prend 6 secondes. Mais lui, il a passé ses relais pour ça. Au final, c'est derrière, clair, évidemment, il joue. Pidcock, c'est un peu la même chose. Pour le coup, je pense qu'ils étaient tous à fond. On l'a vu sur le sprint. qu'on disait normalement, et même le diffuseur et les consultants des diffuseurs disaient normalement c'est Mathieu Van Der Poel qui gagne, Pidcock qui fait deuxième, Johannessen troisième. Pidcock ne fait pas deuxième, il fait troisième et il galère. Donc je pense que Pidcock est à fond, il a déjà lâché trop de jeu.
Il avait fait beaucoup d'efforts.
C'était impossible d'attaquer Mathieu Van Der Poel.
Ouais, mais tactiquement, je pense que tu as raison, Damien. C'est juste qu'ils n'avaient pas de jeu. Tu penses pas,
Baudin ? On est tous d'accord.
Ouais, après, je vous rejoins sur la Lidl Trek. Et je pense que, en fait, c'est une équipe où c'est qu'il y a trop de monde. Il y a trop de grands coureurs, justement. Mais il y a des équipes où c'est qu'il y en a pas assez. Celle-là, il y en a trop.
Mais c'était la force.
Ah, c'est pas la Red Bull, hein, c'est sûr. Hein, là, il y a des bons coureurs. Hein.
Non, mais c'était la force de cette équipe. Ça a toujours été la force de la Lidl Trek. Cette équipe-là, on l'a aimée parce que, justement, elle donnait tout. Elle avait énormément de bons coureurs et tout le monde travaillaient les uns pour les autres. C'est-à-dire qu'avant, dans les années précédentes, Skelmose, qui pouvait jouer le général, faisait les relais, faisait quelques cassures aussi pour les coureurs qui étaient soit échappés, soit les relais dans l'emballage final pour amener Pedersen au sprint. Là, on savait qu'avec l'arrivée de Juan Ayuso, c'était une grande question chez la Lidl Trek, parce que Ayuso, qui a ce profil de leader unique, et qui avait évidemment cette réputation chez UAE
d'en garder un peu et pas de tout donner,
et d'avoir un ego un petit peu surdimensionné. On se disait comment on va intégrer l'Espagnol dans ce collectif ultra huilé de la Lidl Trek, qui fait partie, et je le dis encore, du meilleur, c'est le meilleur collectif vraiment intrinsèque de ce Tour de France.
Ah oui, ils ont que des bons coureurs.
Mais là, on voit avec Skelmose et Ayuso, je pense qu'il y a l'envie de jouer le général et de pas se cramer. Mais on est en train de briser l'ADN de cette équipe.
Florian avait raison.
Tu peux en rester là.
Tu
hein,
peux jouer jours, général, hein. Mais vas-y, donne un coup de main, roule pendant 5 km.
D'accord.
Et puis Ayuso, ça va pas. C'est pas pour ça qu'il fera pas podium. Surtout que ça se trouve dans 3 étapes, il va débrancher comme il le fait régulièrement, et ça sera terminé pour le général. Donc non, ils sont décevants. Il y a quand même. C'est ça qui me fâche un peu, c'est que on va critiquer souvent le UAE. Mais il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont très décevantes et beaucoup de coureurs qui sont très décevants. Et ça, c'est important.
Bah oui. Damien, t'as compris, toi, pourquoi Ineos roulait ou pas ?
Ben, Ineos roulait parce que, bon, ils ont pareil, c'est une bonne équipe, mais ils ne marquent pas trop, finalement, à la fin, depuis le tour. Ouais. Donc, il va falloir qu'ils pointent quelques étapes, quand même. Parce que, bon, niveau général, bon, alors, moi, c'est mon avis, mais le général, il va falloir que les équipes, elles arrêtent d'essayer de jouer le général. Le général, avec les deux premiers qu'il y a devant, au pire, tu auras la troisième place. Donc, la 4, 5, 6e place, ça ne rappellera pas dans 7 ou 8 ans qui c'est qui a fini dans les 10 premiers du Tour 2026. Moi, je pense que les équipes.
J'ai l'impression d'être, de dire la même chose.
Il est là, l'épicier, Tanguy Turgis.
Même pas d'une étape, mais du général. Là, aujourd'hui, on n'arrête pas de dire que Johannessen, l'an dernier, il a fait 6e du classement général pour Renault X. L'an dernier, on n'arrête pas de dire que Jordan Gegat, il fait top 10 du classement général. De quoi ? Et alors, c'est exceptionnel de faire top 10 sur un Tour de France.
Mais moi, je ne l'ai pas compris comme ça. Je l'ai compris dans le sens, et je partage laisser les UAE travailler, laisser les rouler. Arrêtez de vouloir se mettre à leur place pour espérer peut-être à la fin. Arrêtez ça ! Il faut les laisser tranquilles. Et donc, on voit trop d'équipes qui prennent tout d'un coup le manche en disant « Nous, on va revenir, nous, on va gagner. » Et à chaque fois, ce n'est pas eux qui gagnent. Donc, laissez les UAE faire leur boulot. C'est les plus forts. C'est eux qui travaillent. C'est dans ce sens-là, je pense.
Là-dessus, oui, mais il y a le côté... Il y a le côté Ineos, pour moi, j'espère qu'ils ont roulé pour Filippo Ganna. Parce que, en fait,
alors, tu n'aurais pas défendu une 11e place au général. C'est magnifique, une 11e place au général, Tanguy.
Ce qui me choque.
Dans 3 ans, t'imagines ?
Oui, mais ce qui me choque, c'est,
dixième, d'ailleurs,
c'est la 8e étape. C'est pour ça que c'est choquant. C'est qu'on est la première semaine, il y a beaucoup. Mais par contre, défendre une 10e place au général, je le défendrai tout le temps. Ça se défend.
Non, mais
une
10e d'accord, place au mais ça se défend en 3e semaine, ça se défend pas.
Alors, mais les gars,
d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que dans vos analyses, prenez.
Ça se défend quand t'es Bernal.
L'important,
ça se défend quand t'es Bernal.
Bernal.
Bien sûr que ça se défend, mais ça se défend quand t'es n'importe qui.
Ça se défend pas.
Mais pas la 8e étape. Mais Egan Bernal, il pensait qu'il a arrêté le vélo il y a quelques années.
Oui,
il revient, il fait un Tour de France. Pour lui, c'est...
Il sort la carte émotion.
Musique. Mais c'est, je vais le répéter, je le répéterai jusqu'à la fin. Si un top 10 sur un Tour de France, c'est exceptionnel.
Je suis d'accord, mais je ne comprends pas la communication des Ineos. Pourquoi on roule pour le général, mais dis on roule pour l'étape, comme ça tu vas chercher Izaguirre, tu vas chercher Verona et en avant Guingamp.
Ça, c'est nul. Ça, je suis d'accord. Dans la manière générale, moi, je suis pas en train de vous dire, là, en gros, si vous avez tort ou raison. D'une manière générale, dans vos analyses, prenez en considération qu'un top 10 sur une étape ou sur le général, c'est ultra important pour les équipes et pour les coureurs.
Je suis d'accord, mais quand t'as déjà gagné le tour, tu t'appelles Bernal. Franchement, tu vas finir dixième.
Eh bah, t'es un sportif et tu fais tout pour faire le mieux possible et un top 10, ça se défend.
Tu défends pas ça sur une étape que sur l'étape où ça va aussi
c'est
vite.
C'est tôt quand même la 9e étape.
Non, mais c'est le rôle de Bernal. Bernal devra faire ce top 10 maintenant.
C'est pas la question. Non mais moi, pour moi ils sont foutus de nous hein, là-dessus parce qu'ils roulent clairement pour Ghana. Parce que si tu veux défendre, la 10e place de Bernal, tu fais rouler Ghana. Et puis tu fais pas rouler.
C'est nul de dire ça par rapport à l'étape pour intéresser du monde à venir rouler avec toi. Pour moi, c'est nul. Mais je voulais juste dire de manière générale, considérer un top 10 de manière générale, c'est hyper important.
Mais on l'a dit que le début de Groupama FDJ était très bien, t'en fais pas, Tanguy.
On a eu Galopin qui fait top 11.
Mais c'est oui, top 11. On rigole de lui encore.
Quand j'ai gagné top 10, on dit que c'est très bien. Bravo, on est très content pour lui. Quand c'est des plus grands coureurs, je pense que ça n'a pas une grande importance. En tout cas, pour
je suis d'accord. On sera moins marqué dans 10 ans, on dira pas. Alors, 10e de général, Egan Bernal,
c'est Guillaume Martin qui fait 10, c'est Guillaume Martin qui fait 10, on dira bravo, on sera content.
Ah oui.
Ce sera méritant.
Si c'est Nicolas Breuillard qui fait 10, on dira
là
c'est bien.
C'est Braz Afonso, alors là.
Tu sais quoi, on va l'écouter, Clément Braz Afonso, parce que c'était le local de l'étape et il a essayé. Ça n'a pas marché. On l'écoute tout de suite, le coureur de la Groupama FDJ.
Franchement, quand j'y ai cru, je me suis dit qu'on avait un bon groupe, qu'on avait justement des champions qui allaient rouler fort et. En fait, aussi, ils veulent écrémer le groupe. Et surtout, quand Pidcock était là, on savait qu'il fallait. Ils ont compris qu'il fallait pas traîner. Et dès le succomé, là, ils sont sortis. Et ouais, franchement, je me suis dit au pied, je me suis dit, je peux pas y aller maintenant. Il faut que je tamponne un peu. Et je suis monté. On est bien monté derrière. Mais je pense qu'ils nous mettent 30 secondes dans la bosse. On fait ce qu'on peut. Mais on savait que c'était mort. Et puis après. Franchement, je ne m'attendais pas à voir UAE arriver si vite quand même. Il y a Jordan Jégat qui se relève, qui fait une cassure et je me dis qu'est-ce qu'il fait. Il me dit ça rentre, ils sont à 5 secondes. Après, je me suis accroché toute la journée, mais ce n'était pas facile.
Il a fait ce qu'il a pu, Clément Braz Afonso Tanguy.
Il a fait ce qu'il a pu, il a bien fait là, même, on a deux coureurs. Ouais. Non, c'est pour le coup, oui, mais à la rigueur, Ewen, pour moi, je trouve que son sprint, pour le coup, il est un peu loupé par contre. Oui. Parce qu'il finit vraiment dans les derniers du groupe, il fait 33e. Là, on ne voit pas.
Mais c'est rassurant pour la suite.
C'est rassurant. Et c'est pour ça que je dis que la Team Total Energy a fait un beau sprint, parce que la Groupama FDJ United aussi, on avait deux coureurs, on fait 23e et 33e. On fait pas 8 et 9e. Donc c'est important de le préciser.
Merci Damien d'avoir été avec nous au 32-16, touche 9. Évidemment, t'es le bienvenu hein, pour débriefer pendant ces 3 semaines le Tour de France avec nous. Merci encore Damien.
Super, merci les gars. Alors,
il nous reste quelques minutes, il y a Tanguy Turgis qui me fait des grands signes. Il veut se faire la Red Bull.
Non,
vas-y Tanguy.
Pas à ce point-là, mais ça fait plus. Je veux qu'on s'en rende compte parce que ça fait plusieurs jours que je trouve que Red Bull Borans Groen n'est pas au niveau, tout simplement. Et quand je le dis que pour le Tourmalet, on a deux coureurs, on me dit mais non Tanguy, il y a Sepp Kuss, regarde, ils sont deux. Oui, mais c'est les deux leaders.
Alors,
je veux bien. Je suis limité toi. Je veux dire, vous me dites tous, oui, mais regarde, ils sont deux comme les autres, c'est ceux qui sont deux. Oui, c'est les deux leaders. Aujourd'hui, on a 40 coureurs. On a 6 coureurs du UAE. On a 4 coureurs de trek, dont Mats Pedersen, qui n'est pas un grimpeur. Et on a deux coureurs devant. Avec les deux coureurs devant, ça fait 6. On a deux coureurs de Cofidis. Donc, ça veut dire que Red Bull sont au même niveau que Cofidis, que Groupama FDJ et que Team Total Energy.
Dit comme ça.
Et ils ont un budget à 50 millions, mais tout va bien et on n'en dit rien.
Mais Tanguy, ça veut dire où sont les autres?
Où sont les autres? C'est ce que je dis depuis une semaine.
Jane Lay, 3e du Giro.
Je vais te le dire, sur cette étape, les autres sont à 17 minutes. Nico Dance, Jan Tratnik, Jane Lay. Cataneo qui arrive en sport et ensuite Van Dijk arrive à 26 minutes avec Maxime Van Gils.
Et Van Gils qui était un candidat sérieux même pour la victoire d'étape.
Je vais aller plus loin. Ce matin, on fait tout un constat sur la Groupama FDJ de il manque des coureurs. Et là, il manque personne là maintenant pour la Red Bull Borans Groen. Là, on peut pas faire un constat parce que oui, là, c'est le salaire des leaders de la Groupama FDJ, ces mecs-là.
Sauf que Tanguy, ils sont deux dans le top 10 du général.
Ils sont deux dans le top 10 à se tirer dans les pattes. Comme ça, c'est moche.
Tu sais ce que ça représente un top 10 dans le général, Tanguy.
On va pas cracher sur un top 10.
Tanguy, on va pas cracher sur un top 10 du général.
Il leur manque des coureurs. On parle de même des questions CMA CGM qu'on dit qu'ils ont pas avec les problèmes de Richie Tello avec la chute de Valentin Paré-Pinte, ils étaient trois. Red Bull, Borin, Hansgrohe.
Drolien,
ils étaient trois. Et donc, Red Bull, Borin, Hansgrohe,
aujourd'hui, les équipiers, je ne parle pas des leaders.
C'est incroyable. C'est,
aujourd'hui, sur la première semaine, ce n'était pas au niveau du tout.
Ça, tu as raison. Le problème, c'est que l'année dernière, on avait Roglic. Et Roglic, il jouait sa petite partition solo. Il y a des personnes. J'oublie un grand nom. Il y a Jordi Meus, je crois, qui a la Red Bull, mais qui est un sprinter.
C'est quand même inquiétant.
Je ne sais pas si. Peut-être que l'effectif est très mal construit.
C'est
parce que Renko, ça coûte cher. Roglic, ça coûte cher.
Et c'est quand même inquiétant aussi dans le sens où il n'y a pas les équipiers. Et en plus, les deux leaders entre eux, ils ne s'entendent pas.
Tout ça, oui.
Ils ont fait une vidéo. J'ai vu une vidéo Renko. Lipovic. Moi, je suis persuadé
que j'ai vu Lipovic remonter et donner un bidon à Remco, donc c'est vraiment la réconciliation.
On se demandait. On l'a vu refuser un bidon, ça dit oh là là là.
Ils ont rigolé à table.
Pour Remco.
Non, mais voilà, c'était mon. C'est le constat de la première semaine. Et pour moi, Red Bull Hans Gros, pas au niveau. Pour une équipe. Alors, je nuance encore une fois, pour une équipe de ce standing, c'est pas assez.
Pierre-Yves Leroux, qu'on retrouve tout de suite dans l'After Tour, nous a rejoint. Salut Pierre-Yves!
Salut Florian, bonjour à tous.
Bonjour.
On est super content, on n'a pas eu besoin d'attendre le 14 juillet pour avoir une victoire française.
Le petit-fils de Poulidor, c'est parti.
Bah oui, forcément.
25%.
Un peu comme Ferry, Ferry en tennis, voilà, on a des Français.
Voilà, exactement, à l'orienter. Pourquoi on aime tant Mathieu Van Der Poel? Bah oui, voilà, nous on a un coup de cœur, on va parler de lui, évidemment. Ouais, oui. On l'aime tant, on a envie qu'il soit là encore bien longtemps. Donc ça sera notre premier débat, évidemment. Et puis on parlera d'Alex Baudin aussi, il nous a fait plaisir aujourd'hui.
Ouais. Et ben on vous retrouve tout de suite dans l'After Tour. Merci Tanguy Turgis, Johan Bredov, Ludovic Duchesne, Raphaël et Sam à la prod. Et on se donne rendez-vous demain à midi pour le prologue. Ça, salut à tous.
Moi, merci.
RMC 100% route, roulez.